Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et le vendredi, c'est l'actualité de la bande dessinée. Bonjour tout le monde, l'invité est arrivé avec sa grosse valise. Mais vous êtes là et vous êtes bien installé. Tout va bien, Alex Inker ?
Tout va très bien.
Vous êtes venu de Lille pour vous parler de votre bande dessinée, on en parle dans un instant. Vincent Abouchard, il est à la réalisation comme tous les matins. Corinne Amar à la coordination idem. Et ce matin, pour la prise de son, Claire Levasseur. Alex Inker, ou pour être très précis, Alex W. Inker sort sa troisième bande dessinée chez Sarbacane, Servir le peuple, d'après le roman interdit de Yan Liangke, une satire politique dans la Chine de Mao. C'est un petit livre rouge, mais très épais, 260 pages, n'est-ce pas ?
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
C'est votre troisième bande dessinée, oui, 216 pages pour être précis, et c'est réalisé d'ailleurs à la manière des bandes dessinées chinoises. On va en parler, mais d'abord, parlons de l'histoire de Servir le peuple. Alors, on peut dire que c'est l'histoire d'une promotion canapé, pour reprendre la formule consacrée. Sauf qu'ici, les jeux de rôle sont inversés. C'est un homme qui est obligé de coucher avec une femme pour gravir les échelons. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il le fait pour servir le peuple. Nous sommes dans la farce, nous sommes dans la Chine pop de Mao. Et c'est une adaptation d'un roman de Yan Liangke, paru en France chez Philippe Piquier. Livre interdit en Chine, bien évidemment.
Oui, alors c'est l'adaptation du roman de Yan Liangke, c'est l'adaptation surtout de ce que j'en ai vu. Parce qu'adapter un roman, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, qui était une première. Et je trouvais intéressant d'adapter, non pas adapter une histoire sympa pour en faire une histoire sympa en BD, mais d'essayer de tirer le message à l'écrit qui serait intéressant de placer dans les images. Donc c'est pour ça que j'ai été chercher l'imagerie dans la propagande maoïste, qui font de très très belles images, et dans la bande dessinée de tous ces héros du peuple, les petits Lian Huan Hua, les petites bandes dessinées qui présentent les héros du peuple. Et moi, je voulais en faire un anti-héros du peuple. Et qu'est-ce que c'est qu'un anti-héros du peuple, pour moi, dans ce que j'ai vu du roman Yan Liangke? C'est un personnage qui essaie de rester humain au sein de la grosse machine qui est l'armée et qui est le système maoïste. Donc c'est une histoire qu'on peut tirer de la Chine. Si j'avais voulu vraiment pousser l'adaptation, j'aurais pu l'adapter dans n'importe quel système où la hiérarchie écrase l'individu, dans tous ces systèmes pyramidaux que peuvent être les grandes entreprises occidentales ou que peuvent être les grands partis politiques aussi occidentaux. Donc la Chine, c'est le décorum que j'ai voulu garder du roman de Yan Liangke, mais le message est universel.
Parlons du personnage Petit Wu. Ce jeune paysan qui veut gravir les échelons, qui veut réussir dans la vie. Et pour lui, vu qu'il est chinois, vu que c'est dans la Chine de Mao, gravir les échelons, c'est servir le peuple. Voilà, il faut appliquer ce slogan et chacun l'applique à sa manière.
C'est ça, parce que servir le peuple, Petit Wu, dans la bande dessinée et dans le roman, parce que j'ai essayé de rester au plus près du texte de Yan Liangke, j'ai juste remis les choses dans l'ordre pour avoir la progression du personnage vers son but. Mais oui, servir le peuple, c'est servir les autres comme on se servirait soi-même. Et je trouve que cette phrase est vraiment ambiguë, parce qu'il y a un côté où le soi-même peut être déplacé dans la phrase, et en fait on se sert soi-même en se servant des autres. Et c'est un petit peu ce que va faire Petit Wu, et aussi la grande sœur. Mais ce sont des personnages qui se servent avant tout, qui servent leur humanité. Petit Wu veut permettre à sa femme et à son fils, c'est avant tout ça l'histoire, de vivre en ville, puisqu'ils sont dans un petit village paumé du fin fond de la montagne chinoise, ils vivent comme des bêtes là-bas. Et la grande sœur, bon, je vais spoiler un peu la bande dessinée, elle se retrouve...
Non, mais alors il faut expliquer que la grande sœur, c'est pas du tout sa
sœur.
Oui, alors
sa grande sœur, c'est un terme un peu honorifique. La femme du colonel, qui l'oublie à l'appeler grande sœur.
C'est-à-dire, à un moment, il va être muté chez un colonel.
Un colonel de l'armée populaire
Il va être le cuisinier, officiellement, il va être le cuisinier.
Oui, l'aide de camp et le cuisinier, donc il se retrouve à servir à domicile. Et vieux colonel, héros de la guerre sino-japonaise, est amené à partir à Pékin en voyage d'affaires. Et du coup, lui se retrouve seul à servir la jeune et belle femme du colonel.
Qui le désire.
Donc au début, il doit l'appeler tante, c'est un terme honorifique. Et rapidement, elle lui dit, on a le même âge, appelle-moi plutôt grande sœur. Et à partir de là, il y a une familiarité qu'elle va essayer d'instaurer, juste qu'elle lui demande de la servir, de servir le peuple à l'horizontale. Donc, on a cette jeune femme qui nous paraît très manipulatrice dans toute la première partie de l'album, mais on s'aperçoit au fur et à mesure qu'on a quand même une jeune femme qui a une petite trentaine d'années, qui sort avec un colonel grabataire. Et on apprend au fur et à mesure de l'histoire que ce colonel grabataire a subi une blessure de guerre dans sa jeunesse, une balle qui lui est passée entre les jambes. Du coup, cette jeune femme, si elle veut devenir femme en ayant une descendance, offrir une descendance au colonel, il va falloir qu'elle trouve une solution. Et donc, pour servir le peuple, c'est se servir elle-même du peuple.
Alors,
et le peuple,
pour servir le peuple devient très vite très ironique.
C'est ça.
Et elle va profiter surtout de sa situation pour obliger le petit Wu d'être son homme de jour et de nuit pour aller très vite.
C'est un homme de compagnie presque, hein, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont deux êtres qui veulent avant tout servir leur humanité.
Et qui veulent s'en sortir.
Offrir une vie à sa femme, à son fils et elle s'offrir la maternité, c'est quand même beaucoup plus humain que de servir le parti. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman et que j'ai voulu mettre à l'image. Parce qu'on est sur des personnages qui deviennent marginaux tout en restant naturels. Et les marginaux, c'est un petit peu ce que je travaille depuis le début. Enfin, les personnages désaxés, ceux qui se retrouvent en marge depuis Apache et Panama Albron. Et là, c'est ce qui m'a frappé chez ces deux personnages quand j'ai eu le roman. C'est que je comprenais très bien Petit Wu, je comprenais très bien la grande sœur Liu. Et en revanche, le système qui les écrasait, je ne le comprenais pas du tout.
Comment vous avez travaillé à l'adaptation de ce roman? Est-ce que vous avez travaillé avec l'auteur?
J'aurais beaucoup aimé, mais je n'ai pas eu de contact avec l'auteur. J'aurais pu si
mais qu'est-ce qu'il est devenu cet auteur, parce que je sais
il est toujours écrivain, il a reçu le prix Franz Kafka en 2014, mais
il est toujours pas réhabilité en Chine, hein.
Non, mais dans tous les cas mon roman va être ricard en Chine, ça c'est sûr et certain, mais enfin ma BD, le roman l'est toujours, mais j'aurais beaucoup aimé avoir son retour, et je l'aurais peut-être, hein. C'est ça, c'est que dans la création je n'ai pas eu cette chance de travailler avec l'auteur. Là je travaille sur l'adaptation d'un roman américain, j'ai la chance d'avoir l'autrice qui est disponible. Ça aurait été très bien d'avoir son retour, je l'aurais peut-être par piqué, mais je ne sais pas.
Servir le peuple, donc c'est aux éditions Sarbacane, et on l'a dit, hein, c'est-à-dire que vous vouliez aussi rendre hommage à toute l'imagerie de la Chine de Mao.
Oui, et cette imagerie arrive jusqu'à nous à travers des auteurs comme Li Kunwu, qui sont des auteurs que j'aime beaucoup, qui a fait une vie chinoise, parce qu'on se rend compte que tous ces auteurs qu'on peut croiser en festival, qui sont des auteurs chinois d'un certain âge, sont des gens qui ont commencé à dessiner dans la propagande de la révolution culturelle jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un trait particulier dans ces BD qu'on retrouve, il y a une filiation en fait entre la bande dessinée chinoise actuelle et ce dessin de propagande. Et du coup ça m'intéressait, c'est une BD qu'on connaît pas beaucoup, parce que l'Asie on a le manhwa coréen, le manga japonais, et cette BD chinoise elle arrive peu à peu. Et elle a une histoire très particulière, donc c'est tout ça qui m'intéressait aussi d'aller fouiller. Et puis bon, j'ai un voyage en Chine qui m'a beaucoup marqué aussi, d'où j'ai ramené quelques images. Et je me disais, c'est quand même dommage d'adapter une histoire très très forte sans retourner un petit peu tout le système qui écrase les personnages, qui est le système maoïste, à travers son imagerie à lui. Donc faire une sorte de pastiche en utilisant toute l'imagerie de ces personnages, le torse bombé, les sourcils bien marqués, les joues très rouges des paysans, et l'utilisation du rouge et du vert.
Et puis surtout, même le découpage, il y a deux cases par page.
Alors il y a deux cases. Le projet initial que j'avais amené à mon éditeur, c'était même une case par page pour respecter les petites bandes dessinées de propagande. Mais le rythme était du coup très 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 saccadé et ce n'était pas très vendeur. Donc en conservant quand même ce type de découpage, ces images entre bande dessinée et illustration, je n'ai pas perdu cette idée de rendre hommage au Lian Huanhua, ce rythme très particulier de la bande dessinée de propagande, mais j'ai quelque chose qui est quand même beaucoup plus proche de la lecture occidentale.
Alors Alex Inker, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériel pour restituer justement ces couleurs, ce rouge, ce vert, qu'on a l'impression qu'ils sont délavés tout en étant bien chatoyants? Est-ce que vous avez utilisé des crayons de couleur tout simplement?
Ça aurait été une très très bonne idée, les crayons de couleur, j'y ai pensé, mais non. Il y avait cette idée quand même d'avoir une couverture officielle, si la couverture est...
Oui, c'est le petit livre rouge, là.
Petit livre rouge, la dorure, donc quelque chose de très officiel, et d'avoir quelque chose à l'intérieur qui soit beaucoup plus brut. C'est la gravure qui m'a vraiment plu dans mes recherches, et toute la gravure sur bois qu'il y avait pendant la révolution culturelle dans l'imagerie de propagande. Donc moi je n'ai pas réussi à rendre cette gravure sur bois puisque j'ancre au pinceau et que je continue à ancrer au pinceau et que c'est une technique qui m'est très très chère. En revanche, j'aime beaucoup le lino. la gravure sur lino. Donc j'ai fait plusieurs essais, j'ai poncé du lino avec du papier de différents grains pour avoir tout un nuancier de couleurs avec le même rouge ou le même vert, plus ou moins délavé, plus ou moins usé, et j'ai pu travailler mes couleurs comme ça.
Rapide et rusé. Quand je fais mes mao croisés, me disait un esquimao, c'est grâce à la pensée de Mao. S'il est vrai que plaisir d'amour ne dure qu'un moment très court, moi je dis qu'un bon moment vaut bien de cornes d'éléphant. C'est moi que je suis pour Mao contre Liu Shaoxi. J'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge.
Ting ting, voilà le. Jugo wo tao bei qing ju wo zong fa guo yao lai le wo di ben yu yao cheng wo mao yu ji wo yu dang den wo yu mei yu fa zhe wei qing da.
Lorsque je dîne avec Thérèse, je prends des œufs durs mahonnaise. Gélati maota. Le chat prend du mao pour les chats. Le dimanche en automobile, on va visiter la Sicile. Ses plages et ses monuments. Quand on rentre, on est bien content. Liu Shaoxi, j'ai mon bréviaire de révolutionnaire. Dans tous les bouges, moi je bois les quarts de rouge. Le quart de rouge, c'est la boisson du quart de rouge. Si j'aime bien la marche à pied, c'est à cause de la société protectrice des animaux qui protège mon chamao. Si la chromolithographie engendre la monotonie, la montagne ça a du bon, et c'est normal car c'est normal. Monsieur Maurice a été mordu par un guitariste barbu. Monsieur Maurice est moribond, gué dans son le rigodon. Si je suis rapide et rusé, je fais mes mao croisés.
Le grand, l'unique Nino Ferrer, Mao. Et moi, bien entendu. Mao et moi, c'est ce que j'aurais pu aussi dire, Alex Inker, en adaptant justement ce roman qui se passe dans la Chine pop, le roman de Yan Liangke, pour servir le peuple. Mais quand vous êtes jeune, je pense que vous n'avez pas été touché par cette idéologie.
Non, mais j'ai été touché par son imagerie. Puisque quand je suis parti en Chine, comme beaucoup de jeunes, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais étudiant, je m'attendais à cette imagerie en y allant. J'étais partagé entre la Chine de Shanghai des années 30, cette imagerie qu'on a à travers le cinéma, et la Chine de Mao.
Mais c'est fou, c'est comme ces jeunes qui découvrent Che Guevara dans un magasin de fringues.
Moi, c'est la propagande qui est arrivée jusque moi. Et quand je suis arrivé en Chine, je l'ai pas retrouvé au premier abord. Je suis resté une première semaine à Beijing. Et j'avais l'impression d'être dans un truc qui me dépassait de loin. J'avais jamais vu un truc aussi moderne et aussi capitaliste. Et c'est juste quand je suis parti vraiment dans la montagne. Et là, j'ai pu vraiment me servir de mon expérience pour dessiner la montagne et ces paysans que je dessine. Donc il y a vraiment deux Chines, une bipolarité complète dans ce pays entre Pékin, les grosses villes et la campagne, qui m'a vraiment intéressé. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout, et c'est ce qui est sympa avec la BD, c'est que on a une idée, on essaie de construire une œuvre avec un type de personnage, ce que je suis en train d'essayer de faire, et on découvre à chaque fois. On est dans la recherche constante. Là, je travaille sur la Grande Dépression en ce moment, et c'est une leçon de politique que j'ai jamais eue. Donc,
mais comment vous travaillez? Comment vous commentez? Est-ce que vous avez lu, vous avez fini par lire le petit livre rouge, le vrai?
Oui, bah, alors le vrai, non, parce que je l'avais en chinois, je l'avais armé de Chine, mais
donc vous êtes resté que sur l'imagerie?
Non, j'ai lu le petit livre rouge derrière, justement, pour essayer d'en comprendre les fondements. J'ai vu justement quelle était cette machine qui écrasait l'individu, et comment l'individu n'était plus naturel, n'était qu'une pièce au sein d'une grosse machine. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est quand cette petite pièce commence à enrayer la machine. Et là, elle enraye la machine de façon très simple, c'est en répondant aux besoins naturels de la grande Serliou. Et je trouve ça intéressant, parce que ces personnages, tout à l'heure je disais qu'ils étaient marginaux, mais ils deviennent marginaux parce qu'ils répondent à leurs besoins naturels. Et c'est ce qui montre d'une part l'hypocrisie du système, mais aussi son artificialité.
Alors on l'a dit, c'est l'histoire d'une promotion canapé dans la Chine de Mao. Cela veut dire que pour cette bande dessinée, il fallait passer quand même par représenter des scènes sexuelles, de sexe.
Oui, non, pour le coup, c'est vrai que je me suis retrouvé à devoir faire
ce que j'avais pas fait dans votre
que je n'avais pas fait avec Panama Albron,
bande dessinée,
ce qui m'a été parfois reproché.
Ouais, puisque c'est vous avez parlé d'un grand boxeur,
oui,
américain dans le Paris de Jean Cocteau.
C'est ça. Donc j'aurais pu passer par
qui était homosexuel par ailleurs,
et qui avait lui-même été l'auteur d'une imagerie pornographique très intéressante. Les dessins de Cocteau sont très beaux, mais j'en avais pas vu l'utilité, à tort peut-être. En revanche, là, je voyais directement l'utilité de travailler sur ce sexe, mais de façon directe, vraiment d'une façon brutale, frontale et directe, pas passer par l'érotisme. Je voulais pas, j'ai fait plusieurs fois dans l'interview qu'on me demande, je voulais pas faire du manara, je voulais pas une grande sœur Liu, le dos cambré, le regard vers le lecteur, ça m'intéressait pas. Je voulais quelque chose qui soit proche du besoin naturel, et je suis passé par la nourriture. Il y a une scène que j'ai si bien travaillée, qui est celle du cunnilingus, qui répond aussitôt à la scène du repas, puisque le petit Wu est cuisinier et il répond aux besoins naturels de la grande sœur Liu, et un de ses besoins c'est le sexe, et on comprend encore plus quel est ce besoin quand on lit la suite de l'album. J'essaie de pas trop spoiler le truc, mais c'est ça, c'est un rapport au sexe qui est celui du besoin et non pas de l'érotisme. Et je voulais vraiment casser ce côté érotique. Je voulais pas faire quelque chose où je voulais pas attirer la concupiscence dans l'œil du lecteur. Et je vais être déçu si là en dédicace, j'ai des vieux lecteurs libidineux qui me demandent de leur dessiner des scènes porno. C'est pas ça du tout que je recherche. En revanche, c'était nécessaire pour cette adaptation que je travaille sur le sexe.
Adaptation donc d'un roman de Yan Liang. Que comment ce roman est arrivé jusqu'à vous, Alex Winker?
Oh, sur une poignée de main. Réellement avec mon éditeur, sur une poignée de main, il m'a dit ça. J'aimerais beaucoup qu'on l'adapte. Lis-le, dis-moi ce que tu en penses. Et moi, je lui ai dit, je voudrais beaucoup qu'on l'adapte. Je lui ai passé un roman américain que je suis en train d'adapter. Et on a signé les deux romans, les deux adaptations, une fois qu'on s'est mis d'accord, une fois qu'on a lu chacun les romans. Mais je pense qu'il m'a glissé ce roman, justement, parce qu'il voyait que c'était vraiment le genre d'histoire qui pouvait m'intéresser, le genre de personnage qui m'intéressait dans la construction de mon œuvre, entre guillemets, quoi.
Parlons de vos bandes dessinées précédentes. Vous commencez effectivement par la France, par une période bien déterminée. Il s'agit d'histoires de voyous ou d'apaches, puisqu'à l'époque on les appelait les apaches. Donc c'était une période bien précise. Et puis ensuite c'était l'Amérique et surtout la France.
Toujours des années 30, c'est ça, hein?
Toujours autour des années 30. Et là, vous passez quand même aux années 60 avec la Chine pop.
C'est ça. Et donc dans Apache, je travaille sur un type de personnages qui sont les marginaux des années 30. Donc les Noirs à Paris, que j'aborde rapidement avec la jeune fille d'Apache, mais que je vais pouvoir développer avec Panama Albron. Je travaille sur les anciens bagnards, hein, qui sont marqués sur eux par le tatouage, par... Et je travaille sur le milieu de la nuit, la prostitution et les anciens combattants, les gueules cassées. Donc il y a cette frange de la population que j'essaie de représenter. Donc je fais un petit polar avec eux. Ensuite, il y a Panama Albron, Donc, vous l'avez décrit tout à l'heure. On a un boxeur noir, homosexuel, dans le Paris des années 30, opiumman, drogué. Donc, on a vraiment
et champion.
Et surtout champion. Donc, on offre la visibilité à la marge. Et ça qui m'intéresse, c'est ces sociétés où les marginaux sont quand même encore visibles. Puisqu'une société où les marginaux sont plus visibles du tout. Enfin, quand je dis marginaux, c'est ceux qui ne sont plus dans l'axe. Et là, ça.
Eh ben, on arrive justement à la Chine.
On arrive à la Chine où tout le monde doit être dans l'axe. Et il y a ces deux personnages qui deviennent marginaux et ils ne sont marginaux qu'au sein du parti. Puisque dans n'importe quelle autre société, il pourrait très bien être dans la normalité. Elle qui veut un enfant et lui qui veut assurer une prospérité à sa famille, il n'y a rien de plus naturel pour moi. Sauf que là, ça devient des marginaux. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est tout le système qui bouge, qui en fait des marginaux. Et non plus l'individu. Et là, en ce moment, je travaille sur la Grande Dépression, où on a encore ce système qui écrase l'individu.
Alors, c'est adapté de quel roman?
Adapté de Un travail comme un autre de Virginia Reeves, qui est sorti l'année dernière. Qui se passe à l'origine dans les années 20. Et c'est une histoire d'hubris, de personnages, d'électriciens qui se retrouvent fermiers et qui décident d'aller un petit peu contre le cours des choses en électrifiant sa ferme pour en faire une ferme florissante. Et je trouvais très fort, le message était beaucoup plus fort si je le plaçais pendant la Grande Dépression, donc j'ai juste décalé de 5 ans. Et ça me permet de souligner un petit peu plus le message que je pense a voulu travailler Virginia Reeves.
Cette envie de vouloir reconstituer des périodes du passé, Alex Inker, ça vient de vous avez fait des études de cinéma, hein, si
c'est
je
ça,
me souviens
oui.
bien de notre précédente interview. Ça vient de ça, ça vient de votre amour du cinéma ou de votre frustration de ne pas faire ce métier de cinéaste?
Alors, c'est vraiment la recherche qui m'intéressait, l'histoire du cinéma et le rapport entre les images. Donc, c'était quelque chose de très théorique. Donc, j'ai jamais eu d'aspiration à faire de cinéma. En revanche, puis, il y a quelque chose du cinéma qui m'intéresse, c'est l'artificialité, recréer un petit monde de papier, un petit théâtre de papier. Ça m'intéresse beaucoup dans mes BD, puisque c'est des mondes que je comprends. Le monde des années 30, avec la distance, on le comprend. J'aurais beaucoup de mal à travailler sur la période actuelle parce que je la comprends pas. Je la comprends pas. En revanche, il y a des choses qui se passent actuellement que je comprends parce qu'elles se sont passées dans les années 30. Par exemple, la Grande Dépression, quelque chose que je comprends, qui est une très bonne leçon pour la génération actuelle, puisqu'en fait, on a les mêmes mots, les mêmes haines qui ressurgissent, et les mots MAUX. Et du coup, oui, je pense que travailler sur des périodes historiques me permet d'avoir cette sécurité, d'avoir devant moi un petit univers que je peux gérer et que je comprends très bien.
Comment vous gérez vos dessins, vos planches, vos travaux chez vous, Alex Inker, vous qui êtes jeune papa avec plein d'enfants et plein de dessins qui sont pas à montrer?
C'est ma compagne qui m'a dit peut-être que tu devrais pas laisser les enfants à côté de toi, parce que moi ils viennent voir ce que je dessine, donc moi je leur explique, tiens, je dessine une voiture, sauf que sur la même deux planches à côté il y a des scènes explicites, et ils se rendent pas tellement compte, ils sont petits.
Ouais.
Ils sont petits, mais bon, après en grandissant ils vont vouloir lire, parce qu'ils me demandent de leur donner des albums, donc ils en ont, mais encore dans les placards, mais ils ont leurs albums de ce que j'ai fait, c'est normal, mais ils sont curieux. C'est vrai que je suis toujours à la maison, il y a des dessins partout puisque c'est des gros albums. Donc là, ça va, ils sont partis en exposition à droite à gauche, mais c'est vrai que quand je dessine, ça a posé problème plusieurs fois, sans que je m'en rende compte, parce que comme je suis dans mon travail, je ne me rends pas compte que c'est un peu comme ce qui s'était passé avec la couverture d'Apache. Tout le monde me dit « Ah, c'est quand même trois personnes dans un lit. » Sauf que moi, j'étais dans l'histoire, donc vous ne voyez pas du tout le fait que vous pouvez poser trois personnes dans un lit, deux hommes et une femme, deux hommes blancs et une femme noire, à certaines personnes qui rentraient en librairie. Je m'en rendais pas compte à l'époque, mais bon, je pense que c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans son truc, ça nous passe un peu à côté.
Et enfin, pour terminer, votre goût pour les marginaux, tel que vous l'avez exprimé aujourd'hui, ça fait référence à votre passé. Vous êtes un ex-marginal rangé,
pas du tout. J'ai jamais été rangé, mais j'ai jamais été dans la marge non plus. En revanche,
vous êtes juste l'homme le plus tatoué de la bande dessinée après Manu Larsonnet.
Non, mais ce qui m'intéresse, c'est ce besoin qu'ont certaines sociétés de cacher la marge, d'étouffer un petit peu ce qui sort des clous. Et j'ai l'impression que peu à peu, on revient sur ce genre de société, et je trouve ça effrayant, puisque la vue de la marge est symptomatique de la bonne santé d'une société. Donc si on commence à les cacher, s'il y a plein de têtes qui dépassent des rangs, je trouve ça inquiétant. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse dans ce type de personnage, c'est qu'ils sont riches d'une histoire qui n'est pas celle de tout le monde. Si tout le monde a la même histoire, ça ne sert plus à rien de faire de la BD.
Bah voilà, donc vous avez un discours, vous voulez servir le peuple à votre manière.
Je veux servir le peuple.
Vous posez ce genre de questions, Alex?
Ah bah bien sûr, ouais. quand là je suis en train d'écrire mon quatrième album, je réfléchis au cinquième. Du coup, oui, je réfléchis pour pas faire de la BD, pas raconter une petite histoire tous les ans qui soit différente, mais essayer d'avoir un discours, pouvoir dire qu'il y a un message qui relie mes différents albums. Ça a plus de sens, sinon juste faire des petits dessins. Genre, la vie est faite de tellement de choses que la BD, je m'en lasserai vite.
Ça vous prend tout le temps maintenant, le dessin, la bande dessinée?
Oui, parce que comme je suis un papa, je garde le reste de mon temps pour mes enfants. Donc
vous avez arrêté l'enseignement, par exemple?
J'ai arrêté parce que la BD m'intéressait beaucoup plus que de continuer à enseigner. Mais enseigner me plaisait beaucoup aussi. Donc oui, ça me manque et j'y retournerai peut-être un jour.
Servir le peuple, c'est édité chez Sarbacane. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Alex Sinker.